Nous lisons le texte du jour dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 51 à 62. Or, comme arrivait le temps où il allait être enlevé, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci, s'étant mis en route, entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on ne l'accueillit pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume ?» Mais lui, se retournant, les réprimanda. Et ils firent route vers un autre village. Comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. »
Il est donc clairement question de route. Le mot apparaît 5 fois, reprenant la répétition du même terme dans le texte grec, en fait le verbe « faire route ». Surtout chez Luc, qui soigne son style, cette répétition est forcément voulue et indique donc que le thème central de ce passage est comment faire route. Mais de quelle route s'agit-il? Là encore, le texte nous donne des indications. Tout d'abord, c'est alors qu'est venu le temps où il allait être enlevé. Ce terme « être enlevé » est rare et peu précis. Luc pense-t-il à la mort ou à l'ascension de Jésus? En tout cas, il est clair que la question est de faire route alors que Jésus nous a été enlevé, qu'il n'est plus physiquement là avec nous, ce qui est le cas des contemporains de Luc et a fortiori de nous-mêmes. Le but du chemin est clair aussi, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu où Jésus doit souffrir et mourir. Il l'a déjà annoncé 2 fois à ses disciples. Jésus n'avait pas besoin de prescience miraculeuse pour annoncer cela. Comme Martin Luther King n'avait pas besoin de prescience miraculeuse pour se douter qu'il ne mourrait pas dans son lit. Les disciples, eux, ne voulaient pas ou ne pouvaient pas comprendre. Par attachement naturel à Jésus ou parce que cela ne correspondait pas à l'image du Messie qu'ils avaient. Mais Jérusalem, c'est aussi là que Jésus doit ressusciter, comme il l'avait aussi annoncé. Mais cela, les disciples pouvaient encore moins le comprendre. Et Jésus doit souffrir, mourir et ressusciter à Jérusalem, car c'est la cité de David. Et Jésus s'affirme ainsi, le Messie, fils de David. Enfin, Jérusalem, c'est la Jérusalem céleste, telle que décrite dans l'Apocalypse, la cité de Dieu, le royaume de Dieu que nous espérons tous. Cette route, Jésus la prend résolument. Le texte grec dit qu'il durcit sa face, reprenant une expression familière en hébreu. Cela traduit effectivement la résolution, mais aussi l'effort de volonté de Jésus. Nul ne va au-devant de la souffrance et de la mort sans appréhension, Jésus y compris. Et ses disciples sont appelés à prendre cette même route, soit en devançant Jésus, soit en le suivant. Comme nous aussi, nous sommes appelés à devancer ou à suivre Jésus sur cette même route. Mais ce passage souligne surtout les difficultés que nous devons nous attendre à rencontrer sur cette route. Tout d'abord, nous pouvons être mal reçus, comme dans ce village samaritain. La raison de ce rejet est claire. C'est parce que les disciples allaient vers Jérusalem. À l'époque, il y avait un conflit entre Juifs et Samaritains pour savoir où il fallait adorer Dieu, à Jérusalem ou sur le mont Garizim. Tout cela peut nous faire penser à tous nos conflits interreligieux ou interconfessionnels entre chrétiens, mais aussi les conflits avec les adorateurs de mammon, de l'argent. La réaction des disciples est radicale. Ils veulent que le feu tombe du ciel et les consume. Celle-ci peut nous surprendre. Les évangiles ne rapportent aucune fulmination semblable de la part de Jésus, mais elle fait clairement référence à Élie, qui fit ainsi dans le livre des Rois pour ses adversaires. La vigoureuse réaction de Jésus nous met en garde contre nos tentations d'user de la violence pour contrer ceux qui nous barrent la route, mais aussi contre nos tentations de chercher dans la Bible la justification de nos réactions trop humaines. Avec Jésus, il faut accepter de faire des détours, mais sans perdre de vue la destination, Jérusalem. Jésus met aussi en garde ceux qui veulent le suivre. Ils doivent d'abord renoncer aux sécurités et au confort matériel. Ils n'auront même pas un terrier comme les renards ou un nid comme les oiseaux. Face à la requête d'enterrer son père, Jésus répond par la phrase célèbre « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Pourtant, le décalogue demande d'honorer son père et sa mère. Et le souci des femmes d'aller porter des aromates pour le corps de Jésus souligne le respect alors dû aux morts. Le soin hautement respectable d'enterrer son père s'efface devant l'urgence de faire route vers Jérusalem. Le royaume de Dieu est pour les vivants, pour la vie. Enfin, le royaume de Dieu demande de ne pas regarder en arrière, de n'avoir aucune nostalgie pour ce qu'on laisse derrière soi, et de ne regarder que le royaume qui vient. La suite de cette prédication m'a été inspirée par une conférence en ligne organisé par les groupes bibliques universitaires, les GBU, avec pour intervenant Jean-Marc Jancovici, spécialiste bien connu des questions d'énergie et de climat, et Jean-François Mouhot, président d'Arocha, association dont le but est de sensibiliser les chrétiens aux questions écologiques. Vous aurez compris que cette conférence parlait du réchauffement climatique et de comment le limiter au maximum pour que nos enfants et petits-enfants héritent d'une terre vivable. Thème très sensible pour les jeunes touchés par les GBU. Elle partait du constat qu'il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et que, pour y parvenir, il faut diviser rapidement notre consommation d'énergie par deux, voire trois. Les solutions technologiques n'étant à l'évidence pas suffisantes. Cela entraînera une modification profonde de notre mode de vie. Et nous voyons bien que la grande majorité n'est pas prête à ce bouleversement, même s'il lui sera de toute façon imposé par les réalités physiques à plus ou moins long terme. L'originalité de cette conférence était de souligner que pour le rôle que pourrait, que devrait prendre, devraient jouer les chrétiens pour rendre acceptable, voire désirable, cette transformation. Il me semble que l'évangile de ce jour éclaire tout particulièrement cette question. Tout d'abord, il ne faut attendre de Dieu aucune solution miraculeuse. Comme le souligne Jésus quand il dit que le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête, ou quand on sait ce qu'il attend à Jérusalem. Tout finira bien par s'arranger, telle n'est pas notre espérance. Alors, il faut savoir où nous voulons aller tous ensemble. Voulons-nous continuer notre consommation effrénée qui entraîne une destruction rapide de notre terre et une destruction profondément injuste? Les 10% les plus riches pollue 6 fois plus que l'ensemble des 50% les plus pauvres. Et ce sont les plus pauvres qui souffrent le plus du règlement climatique. Voulons-nous une société plus sobre, qui privilégie réellement l'égalité et la fraternité, le lien social et l'entraide? Si c'est ce monde que nous désirons, il faut en prendre résolument la route. Mais nous savons que cette route ne sera pas toujours facile, que nous rencontrerons des obstacles, des oppositions qui pourront être violentes. Il faudra en tenir compte, savoir contourner ces obstacles sans renoncer à notre but. Comme Jésus sur les routes de Galilée ou vers Jérusalem, nous devrons laisser derrière nous certains éléments de notre confort, même si nous aurons encore où reposer la tête. Le christianisme, et le protestantisme en particulier, n'a-t-il pas toujours appelé à la sobriété? La phrase de Jésus « Laisse les morts enterrer leurs morts » nous appelle résolument à penser d'abord aux vivants, aux générations qui viennent après nous. Le conservatisme, quelles qu'en soient les formes, n'est plus de mise avec Jésus. Il nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie » et nous devons prendre soin de cette vie. Et nous ne devons pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Nous faisons face à des défis que l'humanité n'a encore jamais affrontés. Et ce ne sont pas des solutions du passé qui pourront y répondre. Il nous faut rêver d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Dans la conférence dont j'ai parlé plus haut, Jean-Marc Jancovici avouait qu'il ne mettait que rarement les pieds dans une église et toujours dans un but culturel. Mais cela ne l'empêchait pas d'appeler vigoureusement les chrétiens à être aux avant-postes de la nécessaire mutation de notre société. Et il pensait que nous sommes particulièrement bien outillés pour cela. Jean-Marc Jancovici se fait-il une image erronée des chrétiens ? Notre espérance nous donne de voir le royaume de Dieu advenir sur notre terre. Jésus nous appelle à l'annoncer et à y travailler. Certes, Jésus dit à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde, mais j'y vois surtout un appel à ne pas user des mêmes armes que Pilate, à ne pas user de la force et de la violence. Alors oui, prenons résolument la route de Jérusalem, de la Jérusalem terrestre et de la Jérusalem céleste. Jésus nous y attend et il sera toujours à nos côtés. Amen.